Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est vers Haïti que RFI tourne son regard aujourd'hui. Peut-être un peu plus qu'à l'accoutumée, le temps d'une journée spéciale. Haïti, c'est l'endroit où, comme l'écrivait Aimé Césaire, la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité. Haïti, qui la première arracha l'abolition de l'esclavage avant que Bonaparte ne le rétablisse. Haïti, qui proclama en 1804 la première république noire indépendante. Haïti, terre meurtrie par les soubresauts du ciel et de la terre, par la dictature, l'incurie, la corruption de ses dirigeants ou par les comportements peu respectueux, voire néocoloniaux des étrangers. Haïti, pays assailli par la misère et la violence des gangs, mais aussi Haïti, cœur battant des Caraïbes, berceau de tant d'écrivains, poètes et artistes en tout genre, qui en font vivre la langue et la culture, et qui partagent avec le monde cette force à toute épreuve et cette résilience impressionnante qui sont celles de tant d'Haïtiens. Avec nous pour partager leurs ressentis, leurs visions, leurs analyses, leurs espoirs, deux écrivains, Lionel Trouillot pour son recueil de textes courts « Histoire simple » chez Actes Sud, et le poète Bonnel Auguste qui publie chez Projectile « Dans l'éclatement des premiers soleils ». Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Nous aurions tant préféré vous avoir avec nous face à la mer le week-end dernier à Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageurs qui a un compagnonnage ancien avec Haïti, dont vous avez d'ailleurs été largement l'architecte. Mais c'est ainsi, la fermeture de l'aéroport, l'arrêt des vols commerciaux en raison de l'insécurité nous contraignent à enregistrer cette émission par-delà l'océan. Cette insécurité, vous en faites l'écho, d'ailleurs, Lionel Trouillot, dans ses histoires simples. On peut lire, par exemple, ces phrases à la page 27, celle d'un peintre qui vit loin de sa bien-aimée et qui lui raconte.
À Dikini, des hommes armés sont entrés dans une église et ils ont emmené avec eux le pasteur et le directeur de la chorale. Il n'y a pas encore eu de demande de rançon. On ne les reverra peut-être pas vivants. Des individus armés ont aussi cassé les commerces d'un homme d'affaires qui ne fait pas ami-ami avec le président. Les églises chrétiennes, les péristyles, les résidences privées, les commerces, grands ou petits, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Cela peut être le poteau mitant d'un unfort, le tabernacle d'une chapelle, les étals des marchands de rue, un centre de santé. Pour réprimer une manif, la police a lancé des gaz jusque dans la salle de maternité de l'hôpital général. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont entrés dans le bloc opératoire achever un blessé. Je regrette de te parler cette langue plate comme un bulletin de mauvaises nouvelles. C'est devenu cela, le parler quotidien, compter les exactions.
Ce texte, le texte dont ces mots sont extraits, Lionel Trouillot, il a été publié pour la première fois en 2021. Le peintre parle d'ailleurs un peu plus loin de Jojo, autrement dit de Jovenel Moïse, le président de l'époque. Mais ce texte, il sonne encore terriblement d'actualité. Aujourd'hui, pour vous, la violence, c'est pire qu'en 2021 ?
À certains égards, c'est pire. À certains égards, c'est pire parce que vous avez des attaques en groupé, des hordes qui littéralement s'abattent sur les quartiers populaires. Ce n'est pas forcément dans l'ensemble de Port-au-Prince. Vous avez quelques quartiers qui sont encore relativement protégés, mais dans le vieux Port-au-Prince, le bas de la ville et les quartiers nord de Port-au-Prince, donc Cité Soleil, la Grand Rue, le Bel Air, Carrefour, vous avez une grande violence qui s'abat mais de manière totalement aveugle sur des quartiers entiers. D'ailleurs, vous avez des milliers de personnes déplacées.
Dans le prologue du livre, Lionel Trouillot, vous parlez, je cite, de « fabrique de malheur, voire d'horreur, passée inaperçue, noyée dans un trop-plein de tristesses ordinaires ». Quels sont pour vous les artisans de cette fabrique ?
La fabrique du malheur, ce n'est pas un phénomène haïtien, c'est un phénomène, on pourrait dire, mondial. Il n'y a pas de société que je sache qu'aujourd'hui, dans le monde, à ne pas produire presque systématiquement du malheur. Maintenant, qui désigner comme responsable ? Faut-il faire la traque d'individus qu'on considérerait comme responsables ? Ou faut-il dire qu'il y a des structures, il y a des formes d'organisation des rapports entre les humains à l'intérieur des sociétés, entre les différentes sociétés qui font le monde et que ces structures dans les rapports qu'elles infligent à la majeure partie des populations du monde, ces structures sont elles-mêmes des mécanismes de production de malheur, comme je le dis souvent, et je pense qu'ils se sont nombreux à le dire avant moi, les conditions de production de la richesse sont souvent les conditions de production de la pauvreté. Vous avez des systèmes de domination, de discrimination, d'exclusion qui sévissent encore dans le monde. Donc si vous voulez, à l'échelle globale, le monde est une fabrique de malheur et cela se décline de façon particulière dans chaque communauté, dans chaque pays.
Alors en Haïti, il y a eu la dictature, l'esclavage, la misère, les cyclones, les tremblements de terre, le banditisme, la violence, la corruption, bien d'autres mots. Est-ce qu'il y a une malédiction particulière qui se serait abattue sur Haïti ?
Non, cette idée de malédiction, je la considère comme relevant d'une sorte de paresse éthique et intellectuelle. Ce sont les sociétés humaines qui produisent les malheurs des humains, et je ne pense pas qu'il existe un quelconque être supérieur ou des instances anonymes cachées quelque part dans le vaste univers qui déciderait que le malheur, il serait le lot de tel lieu ou de tel peuple, le bonheur non plus, d'ailleurs. Non, pas du tout. Cette idée de malédiction, oui, je crois qu'elle est profondément paresseuse parce qu'elle empêche de penser les conditions de production des choses.
Mais alors justement, pourquoi à ce moment-là, la République dominicaine, c'est-à-dire l'autre partie de l'île d'Hispaniola, s'est beaucoup mieux sortie que la République d'Haïti ?
Ah, mais là encore, allons à l'histoire. L'histoire explique toutes ces choses-là. L'indépendance d'Haïti, c'est une conquête militaire par une armée de captifs contre une armée expéditionnaire dont le mot d'ordre était d'exterminer tous les mâles noirs âgés de plus de 12 ans. La République dominicaine, c'est une sorte de colonie de peuplement qui a glissé dans une indépendance consentie avec la puissance coloniale. Et dès le départ, les investissements de l'ancienne puissance coloniale, dans le cas de la République dominicaine, de l'Espagne et des États-Unis d'Amérique, ont été énormes par rapport à l'ostracisme dans lequel Haïti a été maintenu. Il y a encore d'autres éléments historiques capables d'expliquer tout cela. Et n'oublions pas non plus le racisme, d'ailleurs, dont l'Occident, de manière générale, et les États-Unis en particulier, ont fait montre vis-à-vis d'Haïti. Et il y a aussi, sur le plan interne, le fait que ça, j'en parle beaucoup dans mes livres, que vous avez là une révolution extrêmement moderne dont l'avenir a été pris en otage par des élites ou des oligarchies locales qui ne sont que le tremplin, si vous voulez, du capital international et qui ne se sont jamais intégrées à un projet de construction nationale. Si vous voulez, Haïti, c'est un pays qui n'a pas du tout les élites qu'il mérite. Je le dis souvent, les élites haïtiennes, ce sont des élites de comptoirs dont les villes préférées ne sont pas Port-au-Prince, mais Miami et Santo Domingo.
Histoire simple, c'est le nom du recueil que vous publiez donc en France chez Actes Sud, Lionel Trouillot. C'est un recueil qui rassemble des textes courts. La forme courte, est-ce que c'est pour vous un exercice particulier ?
C'est un exercice particulier parce qu'il faut dire beaucoup de choses en peu de mots. Il faut gérer une quantité de réel, pardon l'expression, et il faut que cette quantité de réel elle puisse être perceptible au lecteur, à la lectrice, sans créer l'ennui, sans que le lecteur ou la lectrice ne se perde dans l'évolution des détails. Le texte court, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit quelque chose comme un petit bijou. Je ne prétends pas les avoir réussis, mais c'était ça pour moi l'obsession. On ne peut pas écrire les milliards de romans qu'on devrait écrire. Toute personne humaine mérite un roman. Les Taïnos tués par, si vous voulez, l'expédition de Christophe Colomb, chacun d'entre eux mérite une biographie autant que Christophe Colomb. Donc il n'y a pas de supériorité biographique. Donc il faudrait écrire les romans de tous les humains, de toutes les humaines. On ne peut pas le faire. Donc quand essayer dans un texte court de capter un instant, un détail de vérité de la vie de quelqu'un, en particulier de la vie des oubliés, des gens qu'on ne voit pas. Pour moi, c'est un exercice aussi difficile qu'écrire un roman.
Voilà, des gens qu'on ne voit pas, nous dites-vous, Lionel Trouillot, ces gens que vous décrivez dans le livre comme ceux qui cherchent une étoile éteinte.
Oui, je crois que c'est peut-être cela notre destinée collective d'être humain, c'est de chercher des étoiles éteintes. Mais en les cherchant, peut-être finira-t-on par les réanimer.
Alors, c'est notamment dans le quartier de Saint-Antoine, dans le centre de Port-au-Prince, que vous avez souvent trouvé votre inspiration, Lionel Trouillot. Votre premier roman, paru en 1989, s'intitule d'ailleurs « Les fous de Saint-Antoine ». Et dans le prologue de ce recueil, vous expliquez que c'est précisément là que vous avez, je cite, « appris sur les défaites ordinaires que sont la vie des humbles ». Ces histoires simples, ce serait donc un livre de défaites ?
C'est un livre de défaites, mais pour moi, la défaite, c'est quelque chose de momentané. La défaite n'est pas une vérité définitive, puisque nous sommes dans un processus de vie. Ce processus de vie, il y a des moments de défaite, il y a aussi des avancées. Et dans le livre, il y a quand même quelques petites lumières, quelques petits scintillements vers des avancées. Et pour moi, c'est, comme j'aime le dire, moi j'écris des textes de la difficulté, mais pas de la défaite définitive. Et en effet, vous savez, quand nous sommes plus fortunés que d'autres, nous avons tendance à ne pas voir leurs blessures, à ne pas voir leurs déchirures, à ne pas penser leurs drames, à penser nos drames, souvent de bourgeois et de petits bourgeois, supérieurs aux leurs. C'est ce piège que j'ai voulu éviter. Et c'est vrai que c'est dans ce quartier de Saint-Antoine que j'ai commencé à regarder. Il y avait une voisine que le mari battait tous les matins et je savais qu'il était 7h du matin, l'heure d'aller à l'école. Quand je la voyais agenouillée sur le balcon, pas très loin de notre résidence, il y a tous ces gens-là que nous côtoyons et qui sont dans une souffrance et qui n'ont pas forcément les moyens de le dire, ni même le temps de le dire, parce que la difficulté auxquelles ces gens peuvent faire face sont telles qu'ils ne bénéficient pas du temps, de recul pour exprimer ces difficultés, ces drames. Donc oui, c'est à Saint-Antoine que j'ai appris à regarder. Pour moi, c'est extrêmement important d'écrire avec le regard et essayer en le faisant d'enrichir justement son regard de ces réalités qui ne sont pas forcément les nôtres.
La première histoire de ce recueil s'intitule « Les vivants et les morts ». Nous sommes à la page 13.
Ma mère avait un cousin borgne. Cet homme extraordinaire nous apportait chaque soir des nouvelles des morts. Il ne sortait pas sans escorte. Les morts étaient son monde. Il entretenait avec eux un commerce incessant, une amitié sans faille. Dans la fraîcheur de l'eau des cruches, dans les couloirs du palais de justice, il était avocat, dans les gradins du stade, dans les salons, sous les tonnelles, les morts faisaient appel à lui pour passer leurs histoires. Il fréquentait tous les héros. À ses dires, il avait maintes fois vu Dessalines en songe, devisé avec lui sur les affaires publiques. De sa salle de travail, il avait par sa science interpellé Bâle et Saint-Michel-Archange. Il fréquentait aussi des spectres plus récents, des morts sans importance qu'on avait empilés dans de vagues cimetières, mais qui avaient encore beaucoup de choses à dire. Le soir, Roger arrivait. Ma mère lui offrait une chaise et commençait le grand récit de tous les décédés qui avaient acquis dans l'au-delà la sagesse qui leur avait manqué de leur vivant. Vu le nombre de personnes qui parlaient par la bouche du cousin Roger, je conclus que mourir ne devait pas être bien grave, puisqu'on ne partait pas vraiment, que l'on restait en relation avec les vivants. Tel ancêtre avait prédit les événements politiques imminents, tel autre avait des conseils à donner sur l'éducation des filles et les plans de carrière des membres de la famille. Puis, contre toute attente, Roger lui-même mourut. L'événement eut sur ma pensée un effet dérangeant. Tous les morts étaient morts avec lui. D'autres personnes ont essayé de poursuivre l'œuvre du cousin Roger, mais pas une ne possédait son talent. Sa mort a tué les morts et son silence m'a condamné à ne vivre qu'avec les vivants.
Est-ce que c'est vous, Lionel Trouillot, le narrateur de ce texte ?
Oui, sur celui-là, c'est moi, parce que le cousin Roger, il existait vraiment, c'était un avocat très, très connu, très, très respecté. Quand il arrivait le soir, ma sœur Evelyne et moi, et mon frère Rolf et ma sœur Jocelyne étaient déjà partis à l'étranger. Ma sœur Evelyne et moi, on s'attendait à avoir des nouvelles des morts. Puis un jour, en effet, il lui-même est mort. Et peut-être que cela m'a aidé à poser cette question de la transmission qui est chez moi de l'ordre de l'obsession. Je le reconnais sans être du tout influencé par une pensée mystique. Je ne crois pas du tout à l'au-delà, mais cette question d'une parole de quelqu'un qui fut, qui n'est plus, et de la présence et de la perpétuation de cette parole, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup.
Je relis la dernière phrase de cet extrait. « Sa mort a tué les morts et son silence m'a condamné à ne vivre qu'avec les vivants. » Avec le temps qui a passé, Lionel Trouillot, est-ce que vous avez ressenti cette condamnation avec de plus en plus de légèreté ou de plus en plus de lourdeur ?
De plus en plus de lourdeur, mais pour retrouver la légèreté, j'ai fait une grande place aux morts dans les textes que j'essaie moi-même, mais d'un point de vue différent du sien, le point de vue, je dirais, plus matérialiste et littéraire, j'essaie de donner la parole aux morts. Donc si vous voulez, j'enrichis ma vie de leur présence, de leur discours. J'en parle un peu d'ailleurs dans un petit livre qui vient de sortir chez Projectile, Lettre à Matisse sur la littérature et autre chose humaine. Il y a une sorte de confession que je fais un peu sur ce qui se passe, pour autant que je puisse en parler dans les petits textes que j'écris. Oui, je fais une grande place aux morts dans mes textes. Et ce n'est pas toujours une compagnie désagréable. Je pense que les vivants devraient vivre un peu plus avec les morts, avec la présence des morts, avec la pensée des morts. Cela nous rendrait moins vaniteux et nous rappellerait à cette vérité que nous ne sommes que de petits moments dans la longue histoire de l'humanité. Nous vivons une époque qui a tendance à oublier cela, qui a tendance à croire que tout ce qui la précède n'avait qu'une fonction, c'était de conduire à elle, et trouve cela extrêmement dangereux. Vous trouverez les Occidentaux pour vous dire que voilà, nous sommes au bout de l'histoire, puisque nous avons trouvé la merveille de la démocratie formelle, en plus démocratie formelle à la carte. Vous trouverez les scientifiques qui sont dans un scientisme qui croit avoir trouvé la vérité de la vie, du monde. Oui, je pense que la conscience que nous ne faisons que passer, que nous sommes partis d'un processus qui appelé à nous dépasser, à proposer aux humains autre chose. Si on avait un peu plus cette idée en nous, l'époque serait plus modeste et peut-être moins bête et moins cruelle.
Hola, vives una vida loca. Your skin refreshing like soda. Gucci Fendi and Fashion Nova. Hola, making me hot bubble like coca. See you dancing like a cobra. Smarty and famous like Oprah. Menda, everybody wanna see Amanda. Amanda, everybody wanna see Amanda. Tout le monde veut voir Amanda. She knows she walking with the best too. Every now and then she want more. She know the grief for me to rest too. So I always do my best too. Make all of these ladies know they vex too.
suppose I have the baddest attack, say you don't know. Don't know. Girl, you make a man mad, make a man crazy. Guru my temper when I don't grace. We live in lush, no minimum wage. Baby, check your calendar, calling all day. You're touching my body, she be feeling my soul in my melody. Yeah, yeah. One in one, one me, you. And your city and your wood, them they chase you. I'm not sorry, Amanda. Everybody wanna see Amanda. Amanda. Everybody wanna see Amanda. Tout le monde veut voir Amanda.
Amanda, méchanceté featuring LAX dans la playlist RFI de ce mois de mai et dans VMDN spécial IT avec Lionel Trouillot qui publie Histoire simple chez Actes Sud. Alors, pas d'Amanda, Lionel Trouillot, dans ce livre, mais il y a beaucoup d'autres femmes dans les textes qui composent votre recueil. Par exemple, il y a Béatrice. Est-ce que vous pouvez nous présenter Béatrice ?
Ah, c'est difficile d'écrire les textes et d'en parler après. C'est comme en parler deux fois. Vous savez, ce personnage de Béatrice, il m'a permis d'être attentif à quelque chose. On ne peut pas préjuger de l'impossibilité chez les gens. Béatrice, c'est un personnage, en plus qui ressemble, puisque moi, les personnages que je mets dans mes textes sont souvent des personnages que je construis à partir de fragments empruntés à des personnes réelles. Ce personnage de Béatrice, c'est justement pour moi le personnage de l'avènement. Quelqu'un à qui on n'avait pas supposé grand-chose et qui portait en elle des richesses supérieures à celles qui étaient chez les personnes qui ne lui supposaient rien. Si vous voulez, Béatrice, pour moi, c'est comme un travail d'atelier. Vous mettez les gens dans des ateliers où ça discute, où ça propose, et vous allez voir émerger des propositions humaines, une beauté humaine, je dirais, qui vous surprend et qui, quelque part, peut aussi vous émerveiller. Pour moi, c'est ça. C'est ça, Béatrice. C'est celle qu'on avait ratée et qui va se révéler à elle-même et qui va révéler au monde le langage et la beauté qu'elle porte en elle.
Ces histoires simples, Lionel Trouillot, vous les dédiez à ceux qui auraient droit à une revanche et la prennent quelquefois, ne serait-ce que par les mots. Et vous avez animé des ateliers d'écriture, dans des bibliothèques notamment, à l'université, dans des quartiers populaires. Vous avez ressenti cet appétit de revanche qui s'exprimerait par l'écriture ?
Oui, je l'ai ressenti. J'ai d'ailleurs écrit récemment un texte critique, puisque c'est aussi mon métier de faire de la critique littéraire et d'enseigner la littérature, sur la poésie d'expression créole des 10 dernières années. Et vous avez ce discours tout à fait légitime de colère, de dénonciation et d'un désir de revanche. La revanche, c'est un bon départ. Il faut la transformer en autre chose. Mais si on n'a pas cette colère au départ, si on est dans une sorte de résignation de laisser aller, on ne pourra pas contribuer à la transformation de la réalité vers plus de bonheur pour tout le monde. Et ce n'est pas seulement, je dirais, dans les milieux populaires, puisque les ateliers, je n'en anime pas que dans des milieux populaires. De ce point de vue-là, je n'ai aucun préjugé. Il ne faut sanctionner personne pour délit d'origine. Je vis d'ailleurs une expérience très belle d'un atelier qui a été créé récemment dans un milieu qui n'est pas du tout un milieu populaire. Et c'est fascinant de voir que souvent les gens ne sont pas réductibles à leur origine sociale ni à leur pratique sociale ordinaire. Il y a un quelque chose en eux qui attend les conditions de sa propre révélation. Et cela me fascine. Donc j'en profite pour faire un clin d'œil à mes amis de l'atelier jeudi soir, à mes amis de l'atelier Tambour du Soleil, à mes amis de l'atelier de chez eux. Oui, moi j'anime des ateliers, si vous voulez. J'aime bien avoir cette disponibilité. Tout groupe qui me dit, et si on essayait de produire du texte ensemble, la réflexion sur la littérature, ensemble sur le monde tel qu'il est et tel qu'on peut le rêver, moi je suis disponible.
Merci, merci beaucoup Lionel Trouillot. Je rappelle les références des deux ouvrages que vous venez de faire paraître, Histoire simple chez Actes Sud et puis Lettre à Matisse sur la littérature et autres choses humaines, sous-titré Quel est ce mystère d'écrire ? C'est aux éditions Projectile. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Bonjour Bonnel Auguste.
Bonjour Jean-François Cadet.
Merci d'être avec nous en ligne de Port-au-Prince. Vous publiez Dans l'éclatement des premiers soleils aux éditions Projectile. Et vous aussi, comme Lionel Trouillot, vous deviez intervenir le week-end dernier en France, au festival Étonnant Voyageur, à Saint-Malo en Bretagne. Vous aussi, vous n'avez pas pu prendre l'avion en raison de la fermeture de l'aéroport. Comment est-ce que vous l'avez vécu ?
Ah, mais je l'ai vécu avec tristesse parce que je devais rencontrer des gens, des journalistes, des opérateurs culturels, des écrivains, des poètes, revoir des amis. Un ami poète comme Yvon Lemen et mon éditeur aussi, que je n'ai pas encore rencontré. Et Saint-Malo, c'est très beau. Le Festival Étonnant Voyageur, c'est l'un des plus grands festivals littéraires et du film de la France. C'est dommage, c'est douloureux. Ah, la situation est ce qu'elle est. Ben, les gangs armés ont tiré sur l'aéroport. Un avion cubain a été touché et depuis, les vols sont suspendus. Je ne sais pas, on a annoncé la reprise des vols pour cette semaine. Je ne sais pas comment ça va se passer.
Eh bien, on va suivre ça évidemment de près sur RFI. Alors cette situation, justement, comment est-ce qu'on peut la qualifier, Bonnel Auguste ? Est-ce que Haïti, comme le disait Franck Etienne, en reprenant l'expression forgée par Édouard Glissant, est dans la spirale de ce qu'on peut appeler le chaos monde ?
Ah ben oui, c'est le chaos, c'est le cycle de la violence depuis très longtemps, de l'instabilité. Il y a beaucoup de violence en Haïti. Des crises politiques, des crises de sécurité, des crises humanitaires. Oui, la situation est très grave parce qu'on ne trouve pas, on n'arrive pas à trouver les solutions. Et les problèmes fondamentaux, on ne veut pas les aborder, on ne veut pas les résoudre. Et les problèmes fondamentaux, ce sont surtout les problèmes des inégalités sociales et économiques. Haïti est le pays le plus inégalitaire, le plus injuste de tout le continent américain. Dès qu'on, si on ne résout pas à ne pas vouloir aborder ces problèmes, à ne pas vouloir les résoudre, ces problèmes d'inégalité sociale et économique, il y aura toujours des crises politiques, il y aura toujours de la violence. Ça ne peut pas continuer ainsi. C'est inacceptable, c'est révoltant, c'est très grave. Toute cette inégalité, toute cette disparité entre les riches et les pauvres, c'est extrêmement douloureux, c'est révoltant. Si on n'aborde pas les problèmes sérieusement, eh bien, il n'y aura pas de solution. On se trouvera toujours dans cette situation chaotique.
Alors là, les inégalités et la violence, Bonnel Auguste, elles ont été le lot commun de beaucoup de quartiers de Port-au-Prince. Vous-même, vous avez grandi dans le quartier populaire de Martissant, à la périphérie sud de la capitale haïtienne. C'est un quartier qui a payé un lourd tribut à la guerre entre les gangs de Grand Ravine et de Tibois. Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution de ce quartier ?
Ah, c'est un quartier totalement détruit. Beaucoup de gens sont partis et il y a des maisons brûlées. C'est un quartier abandonné par des jeunes, des jeunes artistes, des intellectuels, des étudiants. C'est triste parce que je me rappelle à la bibliothèque Étoile Filote, qui était une bibliothèque de proximité où on recevait beaucoup de jeunes. Moi, j'organisais une activité qui s'appelait Dimanche en poésie où des jeunes venaient dire des poèmes réfléchir sur la littérature, sur la poésie. Et ils avaient la chance aussi de rencontrer des poètes, des artistes très connus, confirmés, venant d'Haïti et d'ailleurs. Donc, il n'y a plus d'activité intellectuelle, littéraire, amortissant. Et c'est un quartier tout à fait détruit, un quartier mort.
Dans l'éclatement des premiers soleils, ce recueil qui vient de sortir, il y a un poème intitulé « Je marche dans ma ville ». C'est un poème vraiment magnifique, un de ceux qui en tout cas m'a personnellement le plus touché. Et vous écrivez ceci, Bonnel Auguste. « Je marche dans ma ville et je regarde dans ce qu'elle était, ce qu'elle pourrait être. » Et vous terminez par ces vers superbes et qui disent tout. « Ô ma ville, je vois tes abîmes comme des puits de lumière. » Je vois tes rues ne menant plus à la mort mais à la mer. Ton sang se nourrira de la course des étoiles. Tu laveras ta langue dans la plus belle flamme. Tu plongeras ta tête dans l'éclatement des premiers soleils. En fait, Bonnel Auguste, ce poème, on peut le prendre comme une vibrante ode à l'espoir.
Ah oui, il y a de l'espoir. Aussi, en tout cas, moi, j'ose espérer comme poète, comme écrivain, la poésie permet d'espérer. La poésie permet aussi de regarder autour de nous autrement, de questionner, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de se projeter dans cette situation, comme vous l'avez dit, dans cette situation chaotique dans laquelle nous vivons. L'art en général permet d'espérer, de donner l'espoir non seulement à soi-même, mais aux autres, à partir du moment où on peut créer, on peut se dire qu'on peut forger l'avenir, même si on n'a pas les outils nécessaires, les clés nécessaires pour le faire, parce que ce ne sont pas les poètes, les écrivains qui dirigent ce pays.
Et vous le dites d'ailleurs, je cite cet autre passage du texte, « Ô ville aux crânes écrabouillés, si je penche l'oreille sur tes décombres, je n'entendrai pas seulement la plainte sourde d'une ville comme pilonnée de missiles sol-sol, j'entendrai aussi la douceur des mains qui lavaient les murs et les persiennes, j'entendrai l'écho des premiers pas de la petite fille qui apprenait à marcher. » Autrement dit, Bonnel Auguste, tout est une question de regard, même dans le chaos le plus hideux, on peut trouver une forme de beauté ?
Oui, on peut trouver une forme de beauté, je crois, ça s'exprime ce poème. Oui, dans la douleur, il y a aussi de la beauté. Dans la laideur, il y a de la beauté. On peut, dans la douleur, on peut, dans le sang, trouver la lumière. Et c'est toujours c'est le travail du poète, le travail de l'artiste, d'aller chercher, d'aller fouiller très très loin dans la laideur, dans les profondeurs, dans les abyssales, pour remonter avec cette beauté. Pour dire, même dans le chaos, il y a de la lumière, il y a de l'éblouissement. Et cette petite fille, et cette femme qui est morte, cette prostituée, elle incarnait la beauté malgré sa vie. Elle chantait, elle s'habillait, elle se parfumait. Et cette femme, elle a existé. Je l'ai vue plusieurs fois marcher dans les rues de Port-au-Prince, à la rue Capois. Elle était fière et elle propageait une certaine grâce. Même si c'était une prostituée. Elle croyait qu'elle était belle, elle attirait les regards. Et c'est un peu ça aussi la poésie. Je crois que la poésie doit parler aux gens, même si c'est pas facile à comprendre, même si on doit travailler la forme, même s'il faut donner de l'importance au langage, créer un nouveau langage, pour arriver à la beauté, une beauté qui puisse atteindre les gens. Même s'ils ne savent pas lire, Moi, quand j'écris, je pense aux lecteurs, aux lettrés, mais je me dis si ceux qui ne savent pas lire peuvent trouver un petit quelque chose, peuvent trouver une étincelle en français ou en créole, ça me fera grand plaisir. Et je pense par le travail sur la sonorité et la musicalité que ça peut arriver, que le texte arrive à atteindre le lecteur ou celui qui écoute, le sache lire ou pas.
FBI, DEA.
Mes amis,
FBI.
Mes amis, ça fait des hommes pas ouais, pays moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment, figuille ma misère. Nous plutôt fermer déchets, fait semblant ça va changer. Nous plutôt fermer déchets, du petit pas nous pas tourner, mes amis. Ça va changer, nous plutôt faire des petites petit pas nous pas tout neuf, mes amis. Haïti, ouais, oh, sommes célibes. Oh, mes amis, oh, Caribé, ouais, vous êtes
Karimi dans VMDN spécial Haïti avec Bonnel Auguste pour son recueil dans l'éclatement des premiers soleils chez Projectile. Et nous avons aussi voulu faire entendre à nos auditeurs un autre poème. Il s'intitule Une blessure et c'est votre voix, Bonnel Auguste, qui va nous le partager.
La pluie est une blessure au ventre de la terre, une ride sur les feuilles, le vent dans les branches, une valse sanglante. Nous transportons la cale dans toutes nos traversées. En pleine constellation, nous butons sur la caverne. La faim fleurit à la croûte du pain. C'est triste que les hommes érigent une promiscuité par la bifurcation de leurs rêves. De ma persienne, hublot du cri séculaire, je regarde la rue foisonnée d'odeurs, de mouvements, où sautille l'abîme en frénésie de revenants. Douloureuse fraternité que de se regarder dans le mouvement des passants comme une sensation extraite de son propre corps. Moi, petit singe des tropiques, à l'arrêt des fesses en violente entaille, je trimballe mes tours de cirque en ferraille de mémoire vers des horizons où la lumière de la cible dissimule mal la rigidité de la potence. La mer s'abîme en rumeurs fumantes et disperse dans le coït des marins ses rives qui lèguent à la fécondation des bornes irréductibles. L'orbite elliptique est interceptée par le brûlant balai des sauterelles qui, du frétillement de leurs pattes, accordent la harpe de l'espace en y soufflant l'ondulation du sable mouvant. D'innombrables petites parcelles de prismes et de bleu miroir délimitent leur expansion de sel à la coupe de la ciguë. Sous le poids du désert, une oasis est plus fugitive que le nomade. La hâte nous devance de sa fugue éreintée. L'ascension est une carcasse d'errance. la métaphore des cœurs nomades frappés de mal d'encre. La langue, dans son intense désir de bourgeon, fait jaillir la source des profondeurs de la soif aux hallucinations nocturnes. La ruse de l'œil érige l'obélisque du rêve.
Bonnel Auguste, racontez-nous comment les mots naissent sous votre plume. Vous avez l'écriture facile ou l'écriture douloureuse?
Ça dépend. Parfois c'est facile. Parfois le poème surgit, le poème émerge par lui-même. D'autres fois je vais le chercher à partir d'une thématique. Oui, je travaille beaucoup certaines fois. Pour trouver la musicalité, pour trouver l'image juste. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce rapport entre l'image et le sens. Pour moi, le poème doit être une forme, un sens, comme chez Baudelaire. Baudelaire, c'est l'un des plus grands poètes français de tous les temps. Parce qu'il arrive à trouver cet équilibre entre la forme et le sens. Il travaille, d'ailleurs il l'a dit, vous m'avez donné de la boue, j'en ai fait de l'or. Il a beaucoup travaillé la forme, mais tout en ayant le souci de produire du sens. Pour moi, l'image en poésie, l'image est fondamentale, le texte... doit dire, mais en même temps, il doit créer ce langage particulier. Il doit se présenter comme cet objet singulier, cet objet de sensibilité, d'émotion, d'émerveillement, mais tout en disant les êtres, les choses, le monde, l'histoire, la mémoire, la sensualité. Et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. La poésie peut tout dire, la poésie dit beaucoup, mais il faut savoir trouver une forme, parce que c'est de l'art, c'est du travail aussi. Il ne faut pas tomber dans le délire de dire, mais en même temps, le texte ne doit pas s'enfermer dans une sorte d'autoréférentialité. Le texte s'enferme en lui-même, comme s'il n'était pas écrit pour parler aux gens, il n'était pas adressé aux gens. Voilà. Pour moi, il faut trouver les deux. Quand j'arrive à trouver les deux, à dire dans la forme préconçue, dans la forme travaillée, pour moi, c'est un bonheur. Et je crois que ces deux poèmes, le poème que vous avez lu et ce texte que j'ai lu, pour moi, témoigne de ce souci, de cette préoccupation. Je trouve qu'ils sont justes, parce qu'ils disent la mémoire, ils disent la blessure de l'histoire, ils disent le chaos, tout en créant des images qui peuvent surprendre, des images qui portent la parole plus loin. Des images qui transportent le lecteur quelque part dans un lieu où il peut travailler son propre imaginaire. En tout cas, des images qui, je crois, enrichissent les imaginaires des lecteurs, de ceux qui écoutent et qui sont en contact avec ces textes.
Vous écrivez en français, vous écrivez aussi en créole. Est-ce que la langue créole raconte la même chose, Bonnel Auguste?
Ah oui, pour moi, c'est la même chose. C'est la même exigence en français comme en créole. Je n'ai pas une thématique en français et une autre thématique en créole. C'est la même thématique ou les mêmes thématiques avec la même exigence, l'exigence de l'écriture. Pour moi, le texte doit être écrit. Ça doit être de la poésie. Même si le texte dit, évoque... la politique où évoque un fait banal, un chien qui pisse dans la rue, il doit avoir cette exigence de créer dans la langue un langage nouveau. En français comme en créole, là je travaille sur deux textes poétiques, l'un en français, l'autre en créole, ce sont les mêmes thématiques avec les mêmes exigences. Quand le texte vient en créole, je sais que le texte appartient à l'ensemble des textes créoles que j'écris, et quand ça vient en français, je sais que ce texte appartient à l'ensemble en français. Je ne dis jamais que je vais écrire en créole ou en français aujourd'hui, demain. Non, il n'y a pas de thématique pour le créole ni de thématique pour le français. Moi, je lis tous les jours, j'écoute de la musique, j'écoute de la chanson, en particulier de la chanson française, la grande chanson française, Brel, Brassens, Ferré, Barbara, Renaud, Gainsbourg, etc. Et je lis et je laisse venir le poème, ou à partir d'un mot, je peux aller chercher le poème. Je travaille le poème en français ou en créole. Je n'ai pas cette préoccupation de savoir si le texte va venir en créole ou pas. La seule préoccupation pour moi, il faut que ce soit de la poésie. Il faut que le texte se présente comme un objet de langage, un objet merveilleux qui puisse surprendre tout en disant, tout en s'ouvrant au sens, à la multiplicité des sens. Voilà, les deux langues cohabitent, mais je n'ai jamais écrit de poème où j'ai mélangé les langues. Non, il y en a qui le font. Bon, je pense qu'ils peuvent le réussir. Pour moi, chaque langue est sa part. J'écris en créole, le poème est en créole. Entièrement créole, en français, le texte, le poème est entièrement en français. Donc pour moi, c'est important parce que les deux langues font partie du patrimoine linguistique haïtien. Les deux nous appartiennent et je ne vois pas pourquoi on s'en titrerait de l'une ou de l'autre. Je pense que nous sommes plus riches en assumant ces deux langues, le français et le créole, même si on le sait, comme je le disais, parce qu'il y a les inégalités sociales et économiques, le français est gardé, le français, certains considèrent le français comme une chasse gardée. La majorité de la population n'a pas accès au français, et c'est voulu. Les élites ont tout fait pour que la majorité de la population n'ait pas d'accès à la langue française. C'est l'une des expressions de l'exclusion en Haïti, une exclusion sauvage qui rappelle l'esclavage, le colonialisme, le racisme.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Bonnel Auguste. Je rappelle que votre recueil « Dans l'éclatement des premiers soleils » vient de sortir en France aux éditions Projectile. Dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. À demain avec Cyril Camard, alias Camaro, qui sort une autobiographie intitulée « Renaissance » chez Face Cachée. Et vous m'en direz des nouvelles.